I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Paul Melun, Gilles William Golnadel et Louis Dragnel. Je voudrais qu'on réfléchisse ce soir au calvaire de Harry Habitant, accusé de viol, accusation infamante s'il en est, et qui aujourd'hui a appris son non-lieu, 2 ans et demi après sa mise en examen. Entre-temps, sa carrière s'est arrêtée, les contrats ont été résiliés. Imaginez l'opprobre, la calomnie, l'état dans lequel il pouvait être. Mais aussi, que dire aux amis, aux enfants, au public? Et on a appris cette information aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, bien sûr, lorsqu'un homme est accusé de viol. Je ne sais pas ce que chacun doit faire. Je sais, en revanche, qu'avaient fait, en l'occurrence, les gens qui travaillaient avec lui, qui appelaient parfois, en l'occurrence, M6, qui appelait des dirigeants d'M6 pour dire « moi, je ne veux plus travailler avec Harry Habitant », qui déjà avait fait, ne voulait pas se montrer à côté de lui, tous ces contrats qui ont été arrêtés, de ça. Et ça pose forcément un problème. Et ce problème, aujourd'hui, j'aimerais d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de commencer par cela, je rêverais demain, par exemple, que ce soit la une de tous les journaux.
Oui.
Alors, c'est un non-lieu. Je précise quand même que Madame Charlotte Plantin, qui est pénaliste de la partie civile et qui défend, évidemment, fera appel mercredi matin auprès de la chambre d'instruction, qui défend la dame qui accusait. C'est un non-lieu et il y a appel de la décision. Mais, alors, vous êtes avocat.
Oui. Bon,
on n'a pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, écoutez, moi, la solution, ça fait longtemps que je la propose ici, avec assez peu de bonheur. C'est dans ce type d'affaire d'interdire à la presse d'en parler, de jeter le nom en pâture, jusqu'au moins la mise en examen.
Oui, mais il a été mis en examen 24 heures plus tard. Il a été mis en examen le lendemain des faits.
Ça veut dire quoi, le lendemain? Non, c'est pas possible.
Ah ben si.
Non, vous êtes gentil. Écoutez, vous êtes gentil. On peut pas être mis en examen le lendemain d'une plainte, monsieur Brault. Non, monsieur. Écoutez, on peut reprocher beaucoup de choses à la justice française, sauf la célérité excessive. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. D'accord?
Écoutez,
j'écoute pas. Je vous dis que c'est pas possible. Pouvait pas être possible d'être mis en examen le lendemain. D'une plainte.
C'est-à-dire qu'il a été mis en garde à vue et à la fin de la... En fait, il y a un rapport sexuel qui existe. La jeune femme porte plainte le lendemain. Il est en garde à vue et il ressort en mise en examen. C'est pas possible.
Non, j'y crois pas. Je n'y crois pas.
C'est
jamais comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Ce n'est jamais comme ça que ça se passe. C'est tout. Bon.
Écoutez, on va vérifier.
Vous vérifierez. Vous ne connaissez pas la longueur des procédures.
La plainte a été déposée le 30 octobre et il a été mis en examen en novembre.
Bon, voilà. Ça
a été assez rapide.
Ceci posé dans la plupart des cas.
Et Benjamin va me trouver. Mais je crois que c'est à 2 jours, 3 jours.
D'accord. Dans la plupart des cas, vous avez un temps long entre le fait qu'on en parle, qu'il y ait des accusations qui sont données dans la presse et la mise en examen. Au moins jusqu'à cette date-là, ne balançons pas les noms en peinture. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un d'accusé de viol? Ce qu'on fait avec quelqu'un d'accusé en général, on est prudent. D'accord? On est prudent. Donc, et je le fais, non seulement pour monsieur Habitant,
Quand vous êtes une personnalité publique, par exemple, prenons M6. Il tournait des films pour M6. N'a pas poursuivi la collaboration, a mis en suspens la collaboration.
Moi, je trouve ça honteux. Pardon de vous le dire, c'est honteux. Tant qu'il n'est pas condamné.
Et oui, mais aujourd'hui, vous le savez bien, le public réagit.
C'est vraiment le public ou
le public? C'est le public, il est entre les mains de la presse, d'accord? Le public tout seul, les gens en général, vous savez, les gens en général, l'opinion publique en général, elle réagit pas comme ça. C'est parce que...
Le 2 novembre, pardonnez-moi, plainte le 30 octobre, 2 novembre, mise en examen. Dites pas que ça se passe jamais comme ça.
Mais non, mais on n'est plus...
Mais c'est intéressant que ça aille aussi vite.
30 octobre, ça dit la plainte de...
Pascal, ça dit quelque chose, c'est intéressant. Ça veut dire que quand c'est une personnalité médiatique connue, eh bien, ça peut aller plus vite. Et ça, c'est pas un scoop, Gilles William.
Pardonnez-moi.
Mais j'avais une petite chose à dire après.
Oui, mais on n'est plus dans le monde de la prudence et de la nuance. Moi, là, je crois qu'on a basculé dans un autre monde. C'est-à-dire que la plupart des plaignantes, on l'a vu dans plusieurs affaires, notamment dans l'affaire Depardieu, on veut que ces personnes soient jugées par le tribunal médiatique. J'imagine que la plaignante, de toute façon, ne cherche pas à ce que l'affaire reste top secrète.
Ça, vous n'en savez rien. Alors ça, vous n'en savez rien du tout, hein.
Bah, en tout cas, de toute façon, la plupart des affaires et dans le monde dans lequel on vit, on voit bien que c'est un secret professionnel que tout puisse être gardé, ce n'est plus possible.
Ce qui est difficile, c'est qu'aucune affaire ne ressemble à une autre. Quand Gérard Miller, il y a 40 ou 50 plaintes.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil
qu'une, j'en conviens bien volontiers.
C'est pas pareil. C'est pour ça que c'est très difficile. Aucune affaire ne ressemble à une autre.
Vous avez raison. Mais en tous les cas, une chose est certaine, pardon. Il a déjà été condamné, monsieur Habitant. Il a déjà purgé sa peine, le drame de ce garçon-là. Il a déjà, comme vous l'avez indiqué...
Alors, il avait commencé, depuis qu'il n'était plus mis en examen témoin assisté, à revenir sur la scène. Il est d'ailleurs ce soir en Belgique, je crois, à Moucron. Demain soir, il sera toujours en Belgique. Et il avait commencé à reprendre avec des petites salles, d'ailleurs. Et... C'est vrai qu'on devinait la sortie de crise pour lui. Puisque...
Mais il est condamné à vie.
Ah non, non, plus maintenant.
Il y a une forme de condamnation. Mais parce qu'il y aura toujours le doute.
Ah non, non, c'est ça non, que non, je non, non. Mais, ah non, attendez, vous ne pouvez pas dire si.
Pascal, ce que, mais moi, c'est ce que je trouve terrible. C'est, en fait, on fait un métier, Pascal, qui peut être abominable. Mais vraiment. Parce qu'il y a un certain nombre de journalistes qui prennent un plaisir immense à faire tomber des gens, à les faire passer dans la lessiveuse. Et c'est un choix éditorial, il y a une responsabilité morale. Là, on n'est plus dans les questions de déontologie, c'est une question de morale. C'est-à-dire que vous êtes patron de presse, vous êtes responsable d'une émission, eh bien, vous pouvez choisir de parler d'un sujet ou de ne pas en parler. Et c'est un choix. C'est une décision que vous prenez en votre âme et conscience, typiquement, dans ce cas de figure. Et quand vous choisissez d'en parler alors qu'on ne connaît rien de l'histoire, eh bien, la boîte à fantasmes...
Attendez, je vous dis aucune... Pardonnez-moi, quand je dis aucune affaire ne ressemble à aucune affaire. Dans d'autres affaires, c'est des femmes qui viennent témoigner.
C'est pour ça que je vous dis, c'est le choix à chaque cas, chaque affaire.
Quand vous avez 30 femmes qui parlent.
Mais je suis d'accord, c'est ce que je dis.
Ouais. Mais enfin, tu les écoutes et t'es ébranlé par ce qu'elles disent. Et pour tout dire, tu les crois.
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles.
Quand il y en a 30, oui.
Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de règles.
Quand il y en a 30, oui. En tout cas, je vous parle pour moi. Quand 30 femmes parlent et disent à peu près la même chose, je les crois.
Une femme qui parle d'une histoire qui date de 40 ans, alors qu'en 30 ans, elle trouvait ça formidable. On a le droit de ne pas faire de la publicité par rapport à ce qu'elle dit.
Bon, je cite Pascal Pierre Garbarini, que vous connaissez, qui est avocat comme vous, Pascal Pierre, et qui dit « La solution, c'est la présomption d'innocence.
Bien sûr.
Il est présumé innocent, il faut le rappeler à l'envi. » J'entends ce qu'il dit, simplement.
Mais rapporter à la réalité de notre métier, c'est pas possible.
J'entends.
Mais la réalité, c'est le malheur.
Bon, monsieur Monnet n'a pas parlé.
La réalité, c'est qu'à mon avis, par-delà le problème judiciaire, il y a un vrai enjeu politique. C'est-à-dire qu'à Habitant, ce dont il est victime, c'est d'un certain nombre de personnes, et ça, c'est l'idéologie woke, et ça, c'est un nombre de néo-féministes plutôt vengeresses qui considèrent qu'il y a derrière chaque homme le spectre du coupable, le spectre du parfait salaud, quelqu'un qui est capable de viol en puissance, etc. Tout ça est documenté et des gens comme Judith Butler, dont on a parlé il n'y a pas longtemps sur une autre affaire avec le Hamas, sont des gens qui ont professé cette idéologie-là depuis des années. Par conséquent, ce dont Harry Habitant est victime par-delà les décisions de justice, c'est véritablement la pression à la pensée unique qui a conduit probablement les patrons d'M6 qui ont peur du pas de vague et qui veulent plaire et complaire à ces maîtres idéologiques qui dominent dans le tout Paris, qui dominent dans la culture, qui dominent dans le cinéma et qui imposent une loi d'acier même face à la présomption d'innocence.
Il y a eu de nombreuses auditions, des expertises, des confrontations. Rien n'a été laissé de côté, dit Caroline Toby, qui est son avocate. Je suis ravi pour Harry Habitant et j'espère qu'il pourra enfin se consacrer à sa carrière et que le cinéma lui tendra à la main à nouveau. Tout ce qu'on peut dire, c'est que personne ne peut imaginer quand même le calvaire pendant 2 ans et demi, c'est ce qu'on disait en début d'émission, qu'il a vécu. Et vraiment, je le plains de tout mon cœur, parce que les enfants, c'est terrible. Imaginez-vous une accusation de ce type quand vous êtes innocent. Parce que les gens, ils se rendent... Personne ne s'imagine ce que ça peut être d'être avec accusé quand tu es innocent. Et tu as tes enfants.
Et je me permets de jeter que c'est un charmant garçon. la réalité.
Oui. Alors, en plus,
qui plus est talentueux.
Bon. Simplement pour.
Oui. Et ces derniers mots.
Deux mots. Un, c'est malheur à qui le scandale arrive, peu importe que ça soit vrai ou faux. Malheur. Et quand tu parles de Judith Butler, celui qui est en vérité dans la ligne de mire, c'est le mâle blanc.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Bon. Ouais. Et effectivement, vous avez raison. Alors, ça, c'est.
Mais bien sûr.
On connaît Harry Habitant.
Charmant garçon.
Charmant garçon, effectivement, et on est content pour lui.
Absolument.
Ce soir, je précise quand même que l'appel du non-lieu a été enregistré. Autre sujet, Prisca Thévenot. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde connaisse Prisca Thévenot en France. Elle est porte-parole du gouvernement, mais je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Alors, vous allez entendre cette intervention lunaire. Aucun attentat n'a été déjoué le week-end de Pâques, même si elle a dit le contraire. Donc évidemment, alors vous allez entendre, c'est très étrange ce qui s'est dit à l'heure du déjeuner, puisqu'elle sème la confusion et on ne sait ce qu'elle a dit après qu'elle a parlé.
On a pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte. Car oui, il y a des tentatives de passage à l'acte et grâce à la mobilisation de ces hommes et de ces femmes au quotidien, nous pouvons éviter des drames. Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017.
Nous avons interrogé pendant le compte-rendu le ministère de l'Intérieur qui nous renvoie vers le porte-parole. Donc, est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux? Est-ce que vous avez des précisions à nous dire? La manière dont vous l'avez présenté semblait sous-entendre que ça visait un lieu de culte pendant le week-end pascal. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations?
J'ai simplement dit qu'il y avait eu une tentative de passage à l'acte avec le renforcement des forces sentinelles et le plan Vigipirate qui a été renforcé. Et que je rappelais par la même occasion qu'il était important aussi de souligner que ces hommes et ces femmes qui patrouillent au quotidien, qui sécurisent nos bâtiments publics, nos lieux de culte, eh bien, sont là, nos transports également, sont là pour nous sécuriser partout où nous sommes.
Mais puisque Beauvau nous renvoie vers vous, est-ce que vous avez des précisions sur quelqu'un a été arrêté, sur est-ce que c'était une tentative d'attentat
à ce stade.
Concernant cette tentative de passage à l'acte, est-ce qu'il s'agissait de terrorisme, puisque en plus du ministère de l'Intérieur qui nous renvoie vers vous, le parquet national antiterroriste ne semble pas au courant.
Je n'ai pas dit que c'était une tentative d'attaque terroriste. Et je vous ai répondu tout à l'heure sur ça en première question.
Donc ce n'est pas terroriste?
Non. Enfin, je n'ai pas l'information sur ça. Je vous ai juste parlé de passage à l'acte qui a été déjoué. Mais je ne suis pas en mesure, en tant que porte-parole du gouvernement ou membre du gouvernement, de qualifier ce passage à l'acte.
Donc ça n'a rien à voir avec la menace terroriste?
On protège et on sécurise les forces, on protège et on sécurise partout le territoire sur les différents sujets que je vous ai dit, aussi bien les transports, les bâtiments publics, sur tous les types de risques qui peuvent encourir, sur tous les types de risques.
D'accord.
Merci.
Il y a des centaines de passages à l'acte évités chaque jour qui n'ont rien à voir avec le terrorisme.
Merci bien de le souligner. Merci de le souligner, effectivement. Merci de le souligner. C'est important de rappeler aussi qu'effectivement, la sécurité des Français et des Françaises est assurée partout en permanence et nous devons tous nous mobiliser sur ces enjeux et le rappeler.
Non, mais c'est juste que je n'ai pas très bien compris pourquoi le mettre en lien avec le week-end pascal, la menace Vigipirate.
Il y en a eu un précisément ce week-end.
Dont vous parlez. C'est du terrorisme ou ce n'est pas du terrorisme?
Je ne qualifie pas. C'est pas le gouvernement qui qualifie.
Très bien.
Bon, et la voix que vous entendez, celle de Jacques Seret, journaliste politique, avec vous, à Europe 1. Moi, j'ai rien compris.
Pas de cadeau. Hein.
Il est pugnace. Moi, j'ai rien compris.
Et lui non plus, il a compris
quelque chose. Moi, j'ai rien compris.
Il a posé plein de questions.
Mais alors, il y a eu un attentat déjoué ou pas?
Non. Bah non, il n'y en a pas eu.
On a cru que oui, mais non.
Après, il y a eu un démenti.
Ouais,
on va peut-être l'écouter, le démenti de Prisca Thévenot.
Bon, écoutons Madame Thévenot, elle était tout à l'heure sur ici, CNews.
Je vais effectivement vous rappeler ce que j'ai rappelé ce matin en compte-rendu du Conseil des ministres. C'est que ce week-end, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était sur une chaîne d'information en continu et a précisé qu'il y avait un passage à l'acte qui avait été déjoué en début de mois dernier.
Donc c'est l'ensemble des journalistes qui ont mal compris ce que vous aviez dit.
Je ne me suis pas permise de dire ça. Vous m'aviez demandé de rappeler ce qu'il en était. Je vous ai rappelé ce qu'il en était. Mais je ne me permettrai pas de venir juger le travail journalistique.
En tout cas,
ça ne me ressemble pas et je ne commencerai pas à le faire.
Vous avez été mal comprise, c'est ce que vous voulez dire.
J'ai précisé l'information et je pense que c'est important de le faire. Mais encore une fois, je tiens à le dire.
Il n'y a pas eu de maladresse de votre part, c'est la question que je vais vous poser.
J'ai précisé l'information et je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler une information qui doit être précisée. Point.
Les premiers mots qu'on a écoutés tout à l'heure, si c'est nous qui entendons mal ou pas. Juste les premiers mots, les 10 premières secondes.
Nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte. Car oui,
bon. Il y a... Là, elle parle du week-end. Elle ne parle pas du mois dernier.
Absolument. Parole, moi, je... Non, mais alors, bien sûr, elle s'est trompée. Oui. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est le manque de professionnalisme. Parce que quand le porte-parole du gouvernement vient s'exprimer devant la presse, son texte a été validé à l'Élysée.
Oui.
Elle n'est pas la seule. Ah, c'est donc, c'est-à-dire qu'il y a le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, qui a validé ce texte-là. Bon. Et donc, ça passe quand même par plusieurs filtres et personne ne se dit il y a une erreur dans ce qui est dit.
À la rigueur, elle commet une erreur.
Elle s'est trompée.
C'est pas gravissime qu'elle commet une erreur.
Écoutez, je voulais vous faire écouter ça. Dans l'actualité du jour, il y a également Édouard Philippe. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Édouard Philippe et une élue havraise. Des perquisitions sont en cours aujourd'hui à l'hôtel de ville du Havre et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Alors évidemment, comme l'élection présidentielle arrive, c'est un sujet qui peut nous intéresser. Je voudrais qu'on voie le sujet d'Augustin Donadieu.
Y a-t-il eu conflit d'intérêts dans l'entourage proche d'Édouard Philippe ? Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral à l'encontre de l'ancien Premier ministre. Il est reproché à Édouard Philippe, alors président de la communauté urbaine en 2020, d'avoir signé avec l'association LH French Tech une convention pour l'exploitation et l'animation de la cité numérique du Havre. Or, Stéphanie Basler, la présidente de cette association, n'est autre que l'adjointe à l'innovation d'Édouard Philippe, maire de la ville au même moment. Édouard Philippe, Stéphanie Basler, Claire-Sophie Tassia, directrice générale des services de la communauté urbaine, ont réagi par communiqué dans la journée.
Le maire, les élus et les équipes de la ville du Havre et de la communauté urbaine se tiennent entièrement et sereinement à la disposition du parquet pour donner l'ensemble des éléments nécessaires à l'enquête.
Ces éléments, les enquêteurs de l'Office anticorruption et de la police judiciaire de Rouen ont tenté de les trouver ce matin lors de deux perquisitions.
Des perquisitions ont commencé ce matin à la ville et à la communauté urbaine à la suite d'une plainte déposée il y a maintenant plusieurs mois par un ancien agent de la communauté urbaine qui critique les conditions d'exploitation de la cité numérique.
L'association, seule candidate pour exploiter la cité numérique, devait toucher de la communauté urbaine plus de 2 millions d'euros d'argent public pour mener à bien le projet.
Bon, il paraît-il que des juristes de la communauté urbaine avaient émis des recommandations et alertes sur la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'élu.
Oui, il faut dire que si les faits sont avérés tels qu'ils sont avérés, la prise illégale d'intérêt, c'est le délit le plus terrible du monde, parce que même si vous n'avez pas pris d'argent, il suffit que vous soyez suspecté éventuellement d'y avoir trouvé un intérêt moral pour être coupable. Donc ça pourrait être embêtant si effectivement c'était cette dame-là qui avait bénéficié d'un contrat de la ville du Havre.
Contrat bénévole.
Ah, c'est un contrat bénévole.
Bénévole.
Alors oui, alors.
Il faut garder le fond du.
Malheureusement, la prise illégale d'intérêt, il suffit d'avoir.
L'association devait toucher de la communauté urbaine 2 millions d'euros de compensation de services publics pour mener à bien des projets.
Mais Madame de Basler, qui était donc adjointe à la mairie du Havre, était présidente bénévole de cette association.
Oui, c'est pas ça qu'on lui reproche.
Non, mais bien sûr. Non, mais moi, ce que je dis simplement par rapport à cette affaire, c'est que donc il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet national financier. Pour l'instant, Édouard Philippe n'est pas mis en examen.
Il est même présumé innocent.
Il est prison. Il est plus que présumé innocent, pour l'instant il n'y a rien. Et la perquisition n'a pas lieu à son bureau de la ville du Havre, mais a eu lieu à la communauté d'agglomération du Havre. Bon, bref, attendons de voir ce que ça... Avis.
Vous avez raison, vous le partagez, mais vous avez le droit de ne pas le partager, cher Pascal.
Louis, je trouve que c'est quand même pas bien malin de la part d'un ancien ministre maire du Havre de valider ce type de personne n'a volé, personne n'a rien pris. Je trouve que c'est pas bien malin politiquement.
Attendons de voir l'établissement des parents.
C'est compliqué quand tu gères une agglomération comme celle du Havre, tu peux ne pas penser à ce genre de détails. Très sincèrement.
Bah, je ne suis pas sûr qu'il y a 2 millions d'euros publics à la clé. Je suis pas sûr. Mais bon.
Nous allons marquer une pause. Nous allons parler de la guerre école publique, privée publique que certains veuillent rallumer. On va parler de M. Attal qui parle tout seul désormais.
C'est formidable.
Ça doit être sympa quand même.
Seul, ça sous-entend, il parle tout seul avec Golem.
Imaginez Golnadel dans cette situation. Pourquoi les uns en tout, les autres
pas. Il parle tout seul à l'Assemblée nationale.
Mais oui.
Et c'est pour vous, ça.
Mais bien sûr.
Vous êtes fait pour
être. Mais j'aurais dû être Premier ministre, moi.
Bien sûr. Les ministres ne répondent même plus, il n'y a que lui qui répond.
Il n'est pas trop tard, je n'ai pas dit mon dernier.
Il est tout seul.
Je peux vous dire.
On pourra parler de Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête qui avait écouté notamment CNews, qui était hier chez Cyril Hanouna, et un déchaînement contre lui, parce qu'il a eu le malheur d'aller parler à Cyril Hanouna. C'est extraordinaire, ce monde est extraordinaire. La pause et nous revenons tout de suite. La guerre scolaire pourrait être relancée, en tout cas c'est la volonté de la gauche et même de l'extrême gauche. Un rapport parlementaire questionne le financement de l'école privée, le document dénonce l'opacité et le manque de contrôle du financement public de l'enseignement privé. Je voudrais qu'on écoute Paul Vanier, qui est de la France Insoumise, puisqu'il y a une conférence de presse sur le rapport de financement des écoles privées. Et effectivement, pour l'extrême gauche, l'enseignement catholique, parce qu'au-delà de l'école privée, c'est l'enseignement catholique, bien évidemment, qui est visé. Et je vous propose de l'écouter.
Le système est, en tout cas c'est une appréciation là que je fais mienne, parce que je l'affirme, il est hors de contrôle. Il est hors de contrôle, en tout cas certains des contrôles qui sont prévus par le code de l'éducation, je pense aux audits financiers des établissements, qui sont des contrôles approfondis, eh bien ils sont quasi inexistants. Reviennent aux directions départementales des finances publiques, mais nous constatons, à l'issue donc de ces travaux, qu'au rythme actuel, il faudrait 1500 ans pour assurer l'audit de l'ensemble des établissements privés sous contrat. Et nous faisons là encore des propositions ensemble pour remédier à cette carence majeure qui appelle une réaction très rapide de l'État, du gouvernement.
Et puis derrière ça, et vous allez mieux le comprendre avec cette intervention de Paul Vanier, qui est, je le rappelle, député de la France Insoumise, il y a cette volonté d'attaquer l'enseignement catholique. Écoutons-le.
Il y a de fait des exigences qui sont imposées aux établissements des petits réseaux. Je pense aux réseaux laïcs, protestants, juifs, musulmans ou de langue régionale. Des exigences qui ne sont jamais imposées aux établissements se rattachant au réseau catholique. Et dans ce règne de l'inégalité de traitement, il y a un cas particulier, en tout cas pour moi, celui des établissements musulmans. Ils sont très peu nombreux à être contractualisés, 11 seulement, c'est 1300 élèves. Et là, moi, je parle de traitement discriminatoire, parce que non seulement ces établissements sont les plus contrôlés de France, leurs demandes de contractualisation sont très souvent non satisfaites. Et lorsqu'on s'intéresse au cas du lycée Averroès, sur lequel on pourrait revenir en détail, il y a manifestement, en le comparant au collège Stanislas, un deux poids, deux mesures qui est absolument choquant.
Vous vous rendez compte que ce monsieur compare le lycée Averroès, qui a été fermé, sans doute pour de bonnes raisons, avec Stanislas, qui est une école d'élite de la République. Et ce qui ennuie ces gens-là, c'est précisément que les écoles privées forment plutôt mieux aujourd'hui et ont des résultats plutôt meilleur. Et c'est ça le problème de l'enseignement catholique, c'est qu'aujourd'hui il est de meilleure qualité, donc il est évidemment extrêmement attaqué. On devrait faire monter l'enseignement public, le rendre de meilleure qualité. Non, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est faire baisser le niveau de l'éducation catholique, de l'enseignement catholique.
Je crois que vous leur prêtez un raisonnement qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas dans le raisonnement. Oui. Ils ont un réflexe d'abord électoraliste.
Oui, ça c'est vrai.
Et d'autre part pavlovien. Les catholiques, c'est la religion du vieux peuple. Les musulmans, c'est la religion du nouveau peuple. Mmh. Tout le reste, c'est, je vous assure que c'est pavlovien.
Le problème de Stanislas, c'est que ça marche. C'est un enseignement.
C'est pire que tout. C'est le cancre qui est jaloux du type qui a réussi. Ça, c'est.
Oui, c'est
vous savez,
plus
Et l'enseignement catholique aujourd'hui, il y a 17% des enfants qui sont dans l'enseignement catholique. Pourquoi ? Parce que les gens ont bien compris que si tu veux que ton enfant soit performant, je ne veux pas critiquer évidemment l'enseignement public, mais j'en suis sûr, j'en suis certain. Mais c'est vrai que jadis on allait dans le privé quand on n'était pas très bon.
Oui.
L'enseignement public était vraiment.
Ça a changé.
Aujourd'hui, c'est le contraire.
C'est-à-dire que c'est ça qui est frappant.
Même s'il y a encore de très bons lycées publics, avec de très bonnes prépas publiques qui après forment aux grandes écoles.
J'en suis sûr.
Après, le vrai combat de gauche...
Mais quand vous voyez le classement, à part Louis le Grand, c'est que des établissements privés.
Oui, on voit, c'était Jean-Baptiste C, il y a plein d'autres lycées qui sont très bons
publics. Oui, mais quand vous voyez les meilleurs lycées, je répète, c'est des privés qui arrivent en tête.
Vous avez raison, ce qui n'était pas le cas jadis. Mais un vrai combat de gauche...
Et ceux qui ont les moyens de faire, ils choisissent le privé et l'enseignement catholique. Et ils ne sont pas forcément catholiques, d'ailleurs.
Un vrai combat de gauche qu'on pourrait soumettre à M. Vannier, par exemple, ce serait précisément ce que vous disiez, Pascal, à savoir renforcer le niveau dans le public, faire en sorte qu'il y ait de bons professeurs, qu'ils soient bien formés, qu'il y ait de bons résultats au baccalauréat, qu'on réapprenne les langues dites mortes, parce que ça, c'est une catastrophe, qu'on fasse de la philosophie peut-être plus tôt. Enfin, il y a mille choses qu'ils pourraient faire, plutôt que d'aller s'en prendre toujours à la même chose, c'est-à-dire à l'enseignement catholique, tout en protégeant sa clientèle électorale. Gilles William le rappelait, bien sûr.
Écoutez Marie-Estelle Dupont sur ce sujet. Elle était avec nous ce matin et vous la connaissez. C'est une psychologue clinicienne qui intervient régulièrement sur notre antenne.
Mais ce qui les dérange le plus, c'est pas que le privé soit meilleur. Ce qui les dérange le plus, c'est qu'ils n'arrivent pas à imposer une vision uniformisée, totalitaire, idéologisée de l'éducation. Voilà. Et qu'ils veulent recréer un homme nouveau dont ils contrôlent les circuits de socialisation, les circuits cérébraux. Là, ils démontent l'histoire, ils démontent la biologie, ils démontent tout. Et le privé arrive à échapper à ça. Mais pendant la crise sanitaire, sous prétexte de lutter contre le séparatisme, ils ont coincé l'instruction en famille. Avant, c'était une lettre au rectorat avec accusé à réception. Maintenant, c'est un dossier très compliqué. Sous prétexte de lutter contre les dérives communautaires. Maintenant, ils s'attaquent au privé. C'était écrit d'avance.
Analyse très intéressante.
Elle a totalement raison.
Alors, c'est pas nouveau, la guerre scolaire. J'aime bien de temps en temps vous montrer des archives. On est en 1984.
Mais là, il y a des arguments tellement fallacieux. Moi, je trouve que tout est bidon. Non, mais, pardon, venant de la part de quelqu'un qui est dans un parti qui n'arrive pas à condamner le Hamas et qui explique que la menace, c'est aujourd'hui l'enseignement privé catholique sous contrat. Honnêtement, je suis sidéré que personne ne le relève.
Mais c'est cohérent.
Et ensuite, alors, l'argument qui pourrait être rationnel, mais quand on creuse un peu, c'est complètement fou, de dire que l'enseignement privé est totalement hors de contrôle et qu'il faudrait 1500 ans pour contrôler l'intégralité des... Mais attendez, il y a combien de contrôles dans les associations qui bénéficient d'argent public? Il n'y en a jamais. Qu'est-ce qui est contrôlé par l'État? Non, mais s'il fallait réellement contrôler chaque année l'emploi de chaque euro public dépensé, mais dans ce cas-là, il faudrait recruter 4 millions de policiers, 5 millions d'agents URSSAF. Non, mais
évidemment.
L'État est quand même fondé à contrôler les établissements.
Bien sûr.
Mais je voudrais juste qu'on rappelle, parce que la guerre scolaire, ce n'est pas nouveau. On est en 84.
Non, mais même parce que là, on peut remonter à 1903, quand on a foutu un pied aux fesses des congrégations religieuses.
Je voudrais qu'on parle de 1984, sans parler de 1903, avec cette archive, puisque la grande manifestation, 2 millions de personnes à Paris, c'est la plus grande manifestation, je pense, des 40 dernières.
L'école libre, bien sûr.
De l'école libre, d'un moment absolument merveilleux,
bien sûr.
Où François Mitterrand avait retiré, parce que lui-même, sans doute, ne voulait pas de cette réforme. C'était Savary qui l'avait envoyé dans le mur. Et je voulais vous montrer cela parce que c'est une autre époque, bien sûr. C'était il y a 40 ans pile. Il y a 40 ans pile. Et déjà, ce grand service unifié et laïque était une idée de la gauche.
Premier acte de cette longue journée, le cardinal Lustiger, Monseigneur Villeney, Monseigneur Honoré, apporte aux organisateurs le soutien des évêques de France.
Ils sont dans cette démarche, une manifestation nationale qui ne se veut ni contre les autorités publiques, ni contre les formes diverses d'enseignement reconnues en France, mais pour défendre une liberté qui nous est essentielle.
Un soutien plutôt discret. Puis c'est le départ vers la Bastille. En tête, la direction de l'enseignement catholique. Chaque académie défile derrière sa banderole. Chaque école brandit sa pancarte. De la musique, des chants, des slogans en faveur de la défense de l'enseignement privé. Mais ce qui revient comme un leitmotiv tout au long du cortège, c'est la défense des libertés.
Je ne sais pas si on fera quelque chose, mais enfin, on est tous là.
Ah ben, c'est une journée pour la liberté. Pour la liberté dans tous les domaines, pas seulement l'enseignement, le reste aussi.
On vient nous dire, tous les gens du gouvernement, ça ne change rien. On vous laisse la liberté, on vous laisse tout. Alors pourquoi ils ont fait une loi?
Le passage des personnalités politiques déclenche bien souvent les applaudissements. Madame Veil, Monsieur Chaban-Delmas, Jean Le Canuet, Jacques Chirac, entourés de tous les élus parisiens de l'opposition.
Quelle signification vous donnez à votre présence à cette manifestation?
Je crois que le sens que tous ceux qui sont ici donnent, c'est-à-dire de vouloir que les parents puissent disposer de la liberté de choisir l'école de leurs enfants avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire un choix réel et complet.
Il s'agit cette fois-ci de la liberté de l'enseignement, qui est fondamentale, mais comme toutes les libertés. Car si on commence à rogner, alors le bras y passera. Et on se retrouvera dans une autre société totalitaire, dont nous ne voulons pas.
Plaisir de revoir d'abord Jacques Chaban.
L'intervention de Jacques Chaban
elle est formidable, qui fait vraiment de la politique. Pareil, pas ça.
Avec un accent qu'on n'entend plus beaucoup.
Exactement. Et puis, de revoir aussi Antoine Veil qui était derrière Simone Veil. Antoine Veil qui était le mari de Simone Veil. Et puis Jean Le Canuet. Ce sont peut-être des noms aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est vrai. Pour la jeune génération qui sont oubliés. Gabriel Attal, je le disais, il parle donc. Alors c'est très étrange. C'est la première fois que le Premier ministre, c'est lui qui est en direct.
Une expérimentation pendant 5 semaines.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il considérait que le Premier ministre soit
les autres
plus à portée de
balle. Les autres sont nuls.
Des parlementaires.
Il n'y a que lui qui peut parler. D'un autre côté, j'ai entendu
c'est
tout
un jour
à l'heure.
Parce que demain, on revient à la formule d'avant.
Ah bon? C'est déjà fini?
Non, c'est-à-dire qu'il y a un jour, le mercredi, c'est avec la nouvelle version, avec le Premier ministre qui répond seul à toutes les questions des parlementaires. Et le jeudi, aux questions au gouvernement, et là, pour le coup, ces ministres pourront répondre aux questions. Alors, ce qui est assez drôle, c'est de voir qui râle. Qui n'est pas content?
Alors, Alexis Corbière, par exemple, il a dit Gabriel Attal répondra seul à toutes les questions. La prochaine fois, proposera-t-il aussi de poser toutes les questions? Ce nombrilisme accélère la dégénérescence de la Ve République. Attention, la légende raconte que Narcisse finit par se noyer en admirant. Je vous propose d'écouter quelques députés qui ont réagi à cela.
Les questions au gouvernement, c'est le contrôle des parlementaires, des politiques publiques. Et les politiques publiques, elles ne sont pas menées par un seul homme. Et c'est déjà le vrai sujet de notre démocratie, très concentrée, trop concentrée. Et cette formule participe encore à plus de concentration. Et je trouve ça dommage.
Normalement, c'est un exercice de questions au gouvernement. Un gouvernement, c'est une équipe. Là, il était tout seul au banc, donc c'est un peu étrange, si vous voulez. C'est un peu seul contre tous. Alors peut-être a-t-il voulu induire l'image d'un homme courageux, audacieux, mais en même temps solitaire. Donc voilà, ce sont deux images qui se contrarient un peu quand même.
Il communique en plus avec ce génie de donner l'impression qu'il est politiquement l'inverse de ce qu'il est. C'est-à-dire c'est un homme jeune, en vérité, qui est un vieux politique. C'est un truc de vieux. C'est un homme soi-disant branché qui est vraiment ce qu'il y a de plus conservateur, qui exprime et défend ce qu'il y a de plus conservateur dans la société. Mais il communique. Bon, ben voilà, on a un exercice de communication. Moi, j'ai appelé ça le One Gap Show. Voilà, c'est un stand-up. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Rien.
Il me semble plus pertinent de pouvoir parler, j'allais dire, à celui qui décide des arbitrages, le Premier ministre, qui a des sous-secrétaires d'État qui sont là pour faire un peu de décoration, de décorum. Donc, on trouve que la relation doit être directe avec le Premier ministre, ce en quoi c'est satisfaisant. Il y a une marge de progression. Il faudrait que le Premier ministre réponde vraiment à nos interrogations et à nos questions.
Bon, Véronique Jacquet, si j'étais ministre dans ce gouvernement, si j'étais Bruno Le Maire, je ne sers pas à grand-chose. Manifestement, je peux rentrer chez moi le mercredi après-midi.
Non, d'accord, mais enfin, là, on a quand même un petit peu l'air du vide avec Gabriel Attal. C'est le one-man show, Gabriel Attal, parce qu'effectivement, dans son gouvernement, il n'y a pas de tête d'affiche.
Ah, si. Bruno Le Maire et Dupond-Moretti sont des têtes d'affiche.
Rachida Dati, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Trois personnalités de l'ancien monde qui viennent
déjà
de droite,
4-5 têtes d'affiche.
Mais c'est quoi? Mais ça signe la faillite du macronisme. Enfin, il n'y a personne dans ce gouvernement de connu. Il n'y a personne qui porte quelque chose d'emblématique.
Les noms qu'on vient de dire là.
À part les quatre que nous venons de citer. Bah oui, mais.
Oui, ben c'est pas mal déjà, 5 têtes d'affiche.
Il faut qu'il fasse un petit peu d'agitation.
Là où Sébastien Chenu n'avait pas complètement tort, c'est que si on veut mettre quelqu'un, si on va dans sa logique, si on veut vraiment mettre à la place de Gabriel Attal quelqu'un qui a vraiment le pouvoir dans ce pays, on pourrait mettre Madame von der Leyen qui pourrait répondre aux questions des parlementaires, vous voyez, enfin, c'est cette logique.
Enfin, je trouve que ça fait un peu gadget, pour
si
vous dire.
Et j'ai pas envie. Ils veulent s'adresser à ceux qui ont
gadget.
Le pouvoir.
C'est un peu gadget.
Bah oui.
C'est un peu gadget. Écoutez, écoutez Monsieur Raffarin. Écoutez Monsieur Raffarin, ça fait un peu gadget.
Je pense, au fond, il est le chef du gouvernement. Il veut être le patron. Il est tout jeune, tout neuf. Il faut qu'il entre dans la vie des Français. Il faut qu'il s'expose. Il faut qu'il prenne des risques. Il a un leadership à assumer. Donc, il ne faut pas en abuser. Mais il est dans la phase.
On peut se passer des ministres comme ça.
Mais je pense qu'il faut montrer de temps en temps qu'il y a des patrons. Et qu'un chef de gouvernement, c'est un chef de gouvernement. Et Gabriel Attal, il est tout jeune. Donc, il faut qu'il s'impose.
quand même dit deux fois qu'il était tout jeune. Dans la même phrase. Il est tout neuf, il est tout jeune. Bon, voilà.
Mais de fait,
c'est des animaux politiques. Il est tout jeune.
Est-ce que vous l'auriez vu ?
Il est tout neuf. On va le laisser.
Le petit, c'est ça.
C'est en demi-teinte quand même.
Mais c'est sûr que plus la parole du Premier ministre est rare, plus elle est précieuse. Donc là,
On a dit c'est un gadget.
De la fonction,
il veut s'imposer pour 2027. Bon. C'est-à-dire qu'il veut faire le vide autour de lui.
Ça n'est pas très important. Enfin,
oui. Ça n'a pas une importance démesurée.
Je suis d'accord avec vous. Puisque nous parlons politique, et avant de parler de ce qui s'est passé à Montpellier, on peut peut-être évoquer Quentin Bataillon. Puisque Quentin Bataillon allait parler hier à Cyril Hanouna. Et évidemment, c'est un déchaînement de la gauche, de l'ultra-gauche, mais pas que de l'ultra-gauche, d'ailleurs, de la presse, évidemment, qui y voit à redire. La commission est terminée. La parole est libre. Il était président de la commission d'enquête sur la TNT. Il était donc l'invité de « Touche pas à mon poste ». Je vous propose peut-être d'écouter ce qui... D'abord, je vous propose peut-être de voir ce qu'a dit M. Saint-Toul, toujours avec beaucoup de...
Mesures.
De nuances.
Mesures. Cher Quentin Bataillon, merci de votre démarche expérimentale pour faire avancer la commission d'enquête. N'oubliez pas de vérifier si on peut désormais nommer, voire critiquer Vincent Bolloré dans tes « Touche pas à mon poste » sans risquer de se faire agresser par Cyril Hanouna. Ce sera toujours ça de prix. Bon, M. Saint-Toul, il est obsédé par Vincent Bolloré, manifestement. Bon,
quand Vincent Bolloré... C'est une marque d'intérêt, tout de même.
Oui, bon, je l'ai trouvé moins performant, M. Saint-Toul, quand Vincent Bolloré était en face de lui, si vous me permettez.
Oui. Pas complètement faux.
J'ai trouvé que c'était ce jour-là,
plus calme.
Il pouvait lui dire, oui. S'il avait quelque chose à lui dire. Bon, manifestement, c'était d'un ton différent. Donc, je vous propose peut-être d'écouter d'abord M. Bataillon. Pardonnez-moi, avant, il y a aussi une réaction de Mme Braun-Pivet.
Oui.
Toujours très courageuse. La présidente de l'Assemblée nationale rappelle que les commissions d'enquête par lesquelles le Parlement exerce la mission de contrôle qui lui confie la Constitution sont constituées afin de faire la lumière sur une problématique donnée et d'en soumettre les conclusions à l'Assemblée nationale pour conduire les travaux. Il appartient au président désigné à cet effet d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées de façon impartiale, équilibrée et collégiale. Oui. Bon, donc, elle a continué en disant « Ainsi, tant que les conclusions d'une commission d'enquête ne sont pas rendues publiques, la présidente de l'Assemblée nationale tient à rappeler que son président, comme son rapporteur et ses membres, doivent faire preuve de réserve. » Bon, Monsieur Saint-Toul, il est allé l'autre jour sur une chaîne qui s'appelle Le Média, pour exprimer, d'ailleurs je le dis pour Benjamin Haut, si on peut simplement montrer quelques secondes, ça, où il a parlé en long, en large de ça, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Le Média. Bon, évidemment, Le Média, c'est la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Là, évidemment, sur
quand deux poids, demande mesure. Il n'y a pas eu de communiqué de la...
Non, mais non, bien sûr que non. Et puis, voilà, et puis, c'est un article de Libération, et puis c'est Olivier Faure, président de la commission d'enquête TNT, doit maintenant être relevé de ses fonctions.
Oula.
Enfin bon...
Puis en aucun cas, il n'a atteinte à son devoir de réserve.
Et tout ça est l'écume.
La commission est terminée.
Ce qu'allait dévoiler le rapport parlementaire. Tout ça est l'écume. Tout ça est l'écume des choses.
La transgression.
Évidemment. Bon, alors écoutons Monsieur Bataillon.
Voilà.
Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès?
J'ai encore un peu de neutralité là, je ne peux pas répondre.
Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre parce qu'on a annoncé une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas, et Yann Barthès n'a pas été très sympathique objectivement parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris?
Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice, donc on leur l'a rappelé de manière polie. C'était très important cette séquence, parce que c'est le sujet du pluralisme. Certes, il y a les règles de l'ARCOM. Certes, TF1 et TMC respectent les règles, comme vous les respectez, des temps de parole, etc. Sauf qu'on voit bien le sujet du pluralisme, c'est aussi un sujet de confiance entre les concitoyens, les médias et les politiques. Et je pense que c'est le rôle de chacun, c'est-à-dire aux partis politiques, de recevoir tous les journalistes de la même façon, dans leurs meetings, leurs événements, leur donner des infos. Aux partis politiques d'aller de partout également. Sinon, c'est d'ailleurs déloyal vis-à-vis des autres. Ouais. Et ensuite, c'est aussi le rôle de chaque chaîne d'inviter tout le monde, comme vous le faites, et je vous en félicite. Je pense que c'est important parce que dès qu'il y a un des acteurs qui ne répond plus à son rôle, ça crée la défiance.
Bon, je prends à témoin les gens qui nous écoutent. Ça vaut vraiment de tomber à bras raccourcis
sur Monsieur Bataillon. Monsieur Faure, qui a écrit, je le rappelle, le président de la commission d'enquête TNT doit maintenant être relevé de ses fonctions. Il a participé à la décrédibilisation de l'Assemblée, allant jusqu'à sourire de son humiliation finale lorsque Hanouna lui a remis un t-shirt où il se moque ouvertement de la commission. Monsieur Faure, qui a vendu son honneur pour un plat de lentilles pour rester à son siège, à Jean-Luc Mélenchon et à la NUPES, qui vient donner des leçons de morale. Monsieur Faure, qui a fait 70% la dernière fois que son candidat s'est présenté à l'élection présidentielle, en l'occurrence Anne Hidalgo.
Écoutez, vous entendez ce que dit Monsieur Bataillon. Il a pris la parole, il a simplement commenté l'action qui était la sienne. Ce qui ennuie ces gens-là, c'est qu'effectivement, il était chez Cyril Hanouna. Oui, donc ça, t'as pas le droit d'aller chez Cyril Hanouna, manifestement.
Il a pas le droit de répondre à des questions. C'est une entrave.
Me semble-t-il, il n'a pas dévoilé de secret d'alcool. Non,
il est seul auquel il a des comptes à rendre, Monsieur Bataillon, c'est ses électeurs dans sa circonscription. C'est pas les gens de la NUPES qui s'indignent du fait qu'il ait parlé à Cyril Hanouna. Jusqu'à preuve du contraire, dans une démocratie, un député est libre.
Mais je le répète,
les endroits où il s'exprime publiquement.
Je le répète et je demande à Benjamin Nau, est-ce qu'on a simplement une image à vous montrer de la présence de M. Saint-Oul dans le média, et le média, c'est le nom de...
Là, il y a aucun problème. Les chaînes de télévision, elles obtiennent l'autorisation.
Donc là, on va pas écouter. Moi, j'ai écouté tout à l'heure avec Benjamin Nau. Bon, ce qu'il dit, il n'y a pas grand chose à retenir de ce qu'il dit. Simplement, il commande comme Monsieur Bataillon. Vous voyez, et lui, il voulait virer CNews et C8 de la TNT. Il le disait en plus à la jeune femme qui l'interrogeait. Je sais pas si on va la voir d'ailleurs, cette jeune femme qui l'interrogeait. Mais c'est vraiment des tempêtes dans un verre d'eau.
On parle de la défense, de la possibilité de que toutes les opinions puissent s'exprimer. Là, les gens qui organisent un comité sur la liberté d'expression, pour simplifier, reprochent à quelqu'un qui organise ses travaux d'aller s'exprimer librement dans un média.
Fait même plutôt œuvre de pédagogie chez Cyril Hanouna, puisqu'il explique le fonctionnement de la commission devant des centaines de milliers de gens. C'est plutôt intéressant, même plutôt sur la vocation pédagogique.
Ce qui m'étonne surtout de la part de Mme Braun-Pivet...
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de courage.
Je vais terminer ma phrase.
Oui.
Ce qui m'étonne venant d'elle, que en principe j'apprécie dans sa modération, c'est d'une part effectivement de faire deux poids deux mesures entre le média et Hanouna, et d'autre part ça ne se passe pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas à jouer les arbitres de la morale dès l'instant où ça se passe pas à l'intérieur, encore une fois, de l'hémicycle. Ça m'étonne venant d'elle.
Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, comme disait. Vieille expression.
Oui. L'autre.
Exactement. Un sujet dramatique à présent, et vous allez voir cette collégienne agressée à Montpellier dans des conditions abominables qui nous font réfléchir évidemment sur la société aujourd'hui. Voyez le sujet d'Aminata Dem.
Il est aux alentours de 16 heures hier lorsque trois jeunes, dont une adolescente de 14 ans, roue de coups Samara, 13 ans. Un déferlement d'une telle violence que les médecins la plongent dans un coma artificiel. Ce matin, devant le collège Arthur Rimbaud de Montpellier, où sont scolarisés Samara et son agresseur, un rassemblement était organisé. Des parents d'élèves, mais aussi des proches, sont venus crier leur colère, comme Christine, la grand-mère de Samara.
Au début, ils ont fait une balayette, elle est tombée. Ils l'ont tapé sur une voiture, d'après tous les petits. Et c'était coup de pied dans la tête, comme on voit dans les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un acte de torture et de barbarie. Parce que pour en arriver à mettre un enfant dans le coma, il n'y a aucune raison.
Selon la famille, l'adolescente serait victime de harcèlement depuis plusieurs mois. Un appel sur les réseaux sociaux aurait été lancé pour la frapper. Les autorités se sont rendues sur place en soutien à la famille.
L'enquête est en cours. Il y aura une procédure judiciaire qui fera la clarté des événements. Dans l'établissement, nous enclencherons les procédures disciplinaires en direction des auteurs de cette agression lorsque les faits auront été établi.
La mère de la victime accuse l'établissement de ne pas avoir protégé sa fille. Entendue du chef de tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans, l'adolescente interpellée et placée en garde à vue a reconnu avoir porté des coups. Sortie du coma, la victime sera auditionnée ce jeudi.
Et vous allez écouter la mère et la grand-mère de cette jeune fille agressée.
Le point de départ, ça, c'est un acharnement sur ma fille depuis l'année dernière. J'ai ma fille qui est victime depuis l'année dernière d'harcèlement scolaire. Elle est constamment prise à partie par des élèves, une élève en particulier du collège,
Et en fait, à chaque fois, on se retrouve où c'est complètement bizuté dans le collège, à l'extérieur du collège. Et là, en fait, hier, ça a été un appel sur les réseaux sociaux avec un hashtag pour venir, que tout le monde vienne des collèges aux alentours la frapper et en découdre avec elle.
D'après les copines, ça fait 3 ans que ça dure, des harcèlements, toujours des mêmes jeunes. Il y a une semaine, elle a été battue. Ils l'ont attrapée, ils l'ont frappée dans le dos, un gars. Elle ne l'a pas dit à ma fille, elle n'a rien raconté. Et hier, elle est partie à l'école. Le professeur principal a téléphoné à ma fille pour lui dire qu'il y avait des garçons qui lui en voulaient. Et ma fille a demandé à ce que ma petite fille reste à l'école, qu'il la garde jusqu'à son retour. Elle a rappelé la vie scolaire en début d'après-midi pour bien leur dire qu'elle venait à la sortie la chercher, et ils l'ont jetée à la fosse aux lions.
Il n'y a jamais eu autant de violence. Je dis, c'était, ça a été un acharnement et pour rien. Ça mérite aucune de violence. Ce sont des enfants. Ils ont pas. Ils devraient même pas être dans cet état d'esprit d'être haineux, d'être. Voilà, je suis dépassée. J'ai l'impression, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de même les laisser sortir. Et si ma fille s'en sort, je sais même pas si j'oserais même pas la rescolariser. J'ai peur.
Ah oui, c'est
terrifiant.
Bien sûr.
Ouais. Non, mais il y a deux choses. Le harcèlement scolaire, c'est vieux comme l'école. Là, ce qui est terrible, c'est le degré de violence.
Oui, c'est ça.
Vous comprenez, on se faisait battre. Elle est dans le coma, la môme. Plus les réseaux sociaux. Donc,
elle en est sortie. Hein.
Donc oui, mais donc la foule, le réflexe de foule qui est contre elle. C'est malheureusement à la mesure de ce qui se passe. Mais si en plus, si c'est vrai qu'on avait demandé aux gens de l'école de la garder le temps que la mère arrive et que comme on dit, elle a été jetée dans la fosse aux lions, là, c'est très grave au niveau de la responsabilité de l'établissement, hein, si c'est vrai.
Mais là, je pense
Madame Belloubet expliquera que l'État n'y est pour rien.
N'y est pour rien.
D'ailleurs, Madame Belloubet, pour le moment, a toujours rien dit. Comme toujours.
Quand on entend la...
C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que vous avez des ministres, il y a un enfant dans le coma... Oui. Bon.
Quand on entend la maman et la grand-mère, on se rend compte qu'elles sont forcément dépassées, démunies pour lutter contre cette barbarie. On se rend compte aussi que l'établissement n'a pas les armes, même s'il y a des lois, même s'il y a tout ce qu'on veut. Qu'il y a un tel niveau de barbarie, de violence entre bandes, et on est maintenant aussi dépassé par la...
Mais elle est où, Madame Belloubet ?
Et la régulation.
Elle est où, Madame Belloubet,
là ? Madame Belloubet n'est pas là, mais attendez, pardonnez-moi.
Elle était en commission. Pourquoi elle ne prend pas son avion et qu'elle y va pas ? C'est ça que je ne comprends pas.
Mais parce que ça arrive tous les jours.
Ah non.
Alors peut-être pas qu'une gamine soit dans le coma.
Non. Peut-être ça n'arrive pas tous les jours. Dieu soit loué.
Peut-être qu'une gamine soit dans le coma. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Maintenant que
on nous dit que c'est le grand chantier. Donc elle doit réagir. Elle n'a toujours pas dit un mot.
Il faut pas être
sauf angélique. L'erreur de ma part.
Il ne faut pas être angélique. Avec la mise en scène comme ça des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de plus en plus prégnant. Il y a des pays où ça devient un sujet. Alors la Chine, par exemple, c'est pas une grande démocratie, mais quand même, ils se rendent compte que leurs gamins sont complètement abrutis, que leurs enfants sont complètement abrutis. Donc ils limitent maintenant l'usage des réseaux sociaux. En France, il n'y a aucune loi digne de ce nom pour protéger la petite enfance et les
adolescents. Bien, mais par exemple...
Et les parents, les premiers, vous direz « Ah non, atteinte à la liberté de mon enfant, il a le droit de faire ce qu'il veut sur son téléphone. » Donc il faut être cohérent, je pense, à un moment, si on veut protéger nos enfants.
J'entends bien, mais Madame Belloubet, je disais qu'elle ne s'était pas déplacée, elle a eu quelques mots, elle a dit « J'ai appris avec émotion qu'une collégienne a été violemment agressée à Montpellier. Je lui adresse tout mon soutien, ainsi qu'à sa famille. Toute la lumière doit être faite sur cet acte insupportable. Une cellule d'écoute et des équipes de sécurité. »
Oui, mais donc il y a zéro politique.
Le problème, c'est l'impression d'avoir la même réaction. C'est passé avec le proviseur la semaine dernière. Ça n'a rien à voir, mais à chaque fois, en fait, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que les professeurs, en réalité, sont pas tellement libres de faire remonter les signalements parce qu'ils craignent pour la suite de leur carrière. Le deuxième sujet, c'est qu'on entend tout le temps parler de condamnation la plus ferme, de campagne de sensibilisation, mais en fait, il n'y a rien sur la capacité des directeurs d'établissement à entraver un certain nombre de situations, à empêcher des élèves. Et on voit qu'en fait, on se heurte à chaque fois sur le problème de la sanction qui ne vient pas.
Il y a le sujet de la sanction.
On attend à chaque fois que le drame soit commis. Écoutez cet appel de la mère à Emmanuel Macron.
J'aimerais, si M. Macron a la visuelle sur cette vidéo, M. Macron, stop, il faut arrêter. Franchement, il faut stopper tout ça. Vous laissez faire en décadence tous ces actes de barbarie. Il faut tout stopper, M. Macron. Parce qu'un jour, il y aura une guerre et elle sera entre nous et chez nous.
Mais c'est la grand-mère malheureusement,
si le président de la République, même moi qui est parfois la dent dure avec lui, s'il y avait un levier qui permettait d'arrêter la spirale mortifère de l'ensauvagement de la société depuis 30 ans, ça se saurait et on serait tous enclins à appuyer sur ce bouton. Or, ça n'existe pas. Totalement. Louis parlait de la sanction. Moi, je pense qu'il faut aussi agir en amont. C'est-à-dire qu'il faut agir sur les causes profondes de la décivilisation. Agir vers
donc, il y a des leviers
sur les réseaux sociaux.
Il y a des leviers,
agir sur l'individualisme latent de la société. Agir sur l'acculturation de ces enfants qui n'ont plus les principes élémentaires de sociabilité et de respect. Marie-Estelle Dupont en parle souvent, elle sait ça mieux que moi. Donc, je pense que c'est tout ça. Mais ça prendra peut-être 15 ans, 20 ans pour rééduquer toutes générations qui aujourd'hui sont face à ces réseaux sociaux complètement incontrôlables.
Mais vous voyez, et souvent je le dis, c'est toujours dans des milieux qui ne sont pas les plus aisés.
Non, là, c'est la paillade, quartier prioritaire de la
ville. Ça pourrait arriver ailleurs.
Oui, mais en ce moment, c'est la double, la triple ou la quadruple peine dans les milieux qui ne sont pas les plus aisés. Et souvent, on le dit ici, c'est-à-dire que quand vous avez les moyens d'échapper à l'hôpital public, vous allez à un hôpital privé et on s'occupe bien de vous. Vos enfants, vous mettez dans le privé et on s'occupe bien de vous. Vous êtes dans un quartier parce que vous avez les moyens d'échapper à la sécurité et au point de deal et vous n'avez pas de soucis. Quand vous partez en vacances, pareil et de ça. Donc c'est deux France à deux vitesses avec une élite dont nous faisons partie. Nous, on a cette chance, effectivement. Et il y a une autre France qui souffre et la France de l'élite la regarde. Ben, un jour, ça peut mal se terminer.
D'accord avec vous.
Parce que les enfants de ministres, je ne vais pas faire de démagogie, bien sûr, mais les familles des gens qui sont dans le gouvernement, ils vivent pas dans ces quartiers-là. Ils sont pas en but, en face à face. Mais ça fait, je veux pas dire que je le dis tous les soirs, mais je le dis souvent.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais vous avez raison.
Mais j'ai quand même aussi le sentiment que
ouais. Bien sûr.
Que les conséquences,
bien sûr,
qui touchent les milieux
populaires. En fait, quand tu n'es pas dans une classe aisée aujourd'hui, tu prends toutes les difficultés de la société. Déjà. C'est en difficulté financière. Et avant, au moins, vous allez à l'école, hôpital, etc. Sécurité, tout pouvait aller. Et aujourd'hui, tu prends tout.
Ah oui.
Alors, ce qui est terrible, c'est que maintenant, le problème est tellement en train de se généraliser partout que même dans les milieux aisés, c'est en train d'arriver. Et il ne faut attendre que ça pour que les politiques se bougent
Paul
et Manon, réagissent.
Juste, en écho à ce que disait Pascal, si Madame Belloubet était vraiment, elle se rappelait qu'elle était une femme de gauche, qu'elle était vraiment attachée à la République, comme le disait, elle mettrait en place cette promesse républicaine qui est l'égalité devant l'éducation, devant l'hôpital public, devant les services publics. C'est ce que vous décriviez, Pascal, à savoir qu'un enfant qui naît dans un quartier populaire ou à la campagne ait autant de chances de réussir qu'un enfant qui naît d'un bon milieu social. Et ça, là, le compte n'y est pas du tout, et même on s'enfonce d'année en année.
Mais là, on sait que ce sont des palabres, puisqu'il y a aussi des logiques de territoire dans ces affrontements de bandes.
Et là, précisément, puisqu'on on ne sait pas précisément les conditions et on va être prudent sur l'enquête qui sera mise en place. Mais ça serait bien, par exemple, que demain matin, Mme Belloubet soit dans cette école. Moi, je trouve que ça serait intéressant. Olivier Benkemoun, qui est là.
Bonsoir.
Centré, tel. Vous avez vu, c'est
l'école.
Ah non, c'est Figaro dans la première
salle. La grande garderie, l'école.
Vous pouvez le refaire,
monsieur
là.
Oui. L'école, c'est la grande garderie.
C'est qui a dit ça?
C'est le titre du livre de Lisa Kamen Hirsig, professeur des écoles.
Ah bah oui,
elle sera là. Il y a un chapitre, évidemment, sur le harcèlement. Il y a un chapitre, je crois, sur l'éducation sexuelle à l'école. Vous en avez parlé ce matin.
Oui, avec Marie-Estelle Dupont, qui est vraiment remarquable.
On va y revenir tout à l'heure, parce que ça, c'est un chapitre extraordinaire.
Oui.
Et puis on va parler, évidemment, avec elle de harcèlement, de l'école, de ce qui change, de ce qui ne change pas, et de cette affaire absolument effroyable.
Eh bien, merci à vous, et on vous écoutera avec... intérêt. Laurent Capra était à la réalisation, David de Tonnelier était à la vision. Merci à Benjamin qui était au son, à Benjamino qui était avec nous ce soir, avec Marwan Sahir, avec Guilhem Lafage. Et je tiens à dire que dans le petit match qui a repris entre Julien Pasquet et moi, Julien a gagné ce soir et nous sommes à 3-3.
Voilà. Il avait déjà
l'honnêteté intellectuelle. Ah oui, nous sommes à 3-3. Nous sommes à l'honnêteté intellectuelle, m'oblige à le dire.
Et les résultats sont meilleurs pour lui que l'an dernier. Hein.
Oui, il s'est beaucoup entraîné. C'est vrai qu'il s'est beaucoup entraîné.
Il y a peut-être l'âge, monsieur.
Bah, oui.
Allez savoir. Allez savoir, ça peut jouer l'âge.
Qu'est-ce que vous sous-entendez?
C'est terrible la jalousie.
Ouais.
C'est un sentiment qui comment dire, qui habite
vous
parfois l'homme.
Votre de football, c'est ça.
Bon, je salue Jean-Michel Larquet qui a eu ce mot très gentil pour moi. Jean-Michel Larquet que j'aime tendrement et qui a dit Pascal, tu as hérité d'une veste de Thierry. Et c'est là-dessus que nous refermerons cette
veste
émission.
Absolument magnifique.
Thierry Roland, bien sûr. Bonne soirée à tous, Olivier, dans une seconde, à demain.